Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Bruit du monde par Principe Actif. Azul, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Les Bruits du Monde, l'émission qui prête une oreille attentive au brouhaha, aux musiques et à la poésie de notre vaste monde. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage consacré au festival Tilili, le mois berbère, qui avait lieu au Centre André Malraux à Rouen du 6 au 27 janvier 2017. Vous entendrez les voix de Saïd Atek, président de l'association Tafsout, organisateur de l'événement, l'anthropologue Tassadit Yessine, ainsi que des extraits des concerts de Nabila Dali, de la chorale Tiliwa et du groupe Azro.
Le projet est né d'une discussion avec la présidente du centre André Malraux et de l'administratrice la personne qui s'occupe de la médiation, plutôt de la médiation culturelle. Ces trois dernières années, on fêtait le Nouvel An berbère une seule soirée, on choisit un artiste. On essaie de réussir notre soirée en présentant juste un artiste. Voilà. Et du coup, à chaque fois qu'on réussissait notre événement, ils se sont dit, sur les Hauts de Rouen, cette association-là propose quelque chose... qui est un peu pas déroutant. Pour nous, c'est vraiment du banal. On est comme tout le monde. Nous, ce qu'on propose n'est pas communautaire. Nous, on propose un projet culturel. OK, il résonne avec d'autres terres qui sont lointaines. Et aussi, il résonne aussi avec certaines populations ou nous tous, qui avons un peu de sang, un peu de goutte, un peu de goût, ou j'en sais rien. Un peu dans nos veines, donc on est tous un peu impliqués dans la vie culturelle, dans la vie associative, dans la vie donc ce n'est pas juste c'est pas un projet qui va défendre un état, une communauté ou quoi que ce soit, mais cette idée là effectivement par ricochet on parle de problèmes culturels qui se passe effectivement dans les pays d'origine, et aussi un problème culturel qui est aussi inhérent à la société française, parce qu'il y a réellement un problème culturel. Un festival, c'est des milliers d'euros, quoi. On peut pas. On s'est dit, on va essayer de convaincre des artistes de jouer le jeu, mais pas gracieusement, parce que ça a un coût. Ça a un réel coût. Trois soirées, en mettant des têtes d'affiche et des gens, des personnes émergentes, des gens oubliés quelque part, que ce soit jeunes ou vieux, peu importe, mais des gens qui ont un talent et un certain talent, et qui sont atypiques. Un exemple de la photographe Sonia Kessy, qui est bergère, qui suit des cours de correspondance de langue ancienne, de grec, de latin, qui peut garder des moutons aujourd'hui, faire de la photo. Parce que il y avait un appareil photo à la maison, c'était celui du grand-père qui traînait par là, et elle l'emmenait quand elle allait au champ avec ses brebis. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont magiques. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Tafsout, comment elle est née. Elle est, elle, À l'origine, ce ne sont pas des Kabyles qui l'ont créé. C'est un couple. C'est un couple de Français, dont la femme a un père Kabyle qu'elle ne connaît pas. En tout cas, pas assez, quoi. Donc, il y a eu un conflit, comme beaucoup de. Nabil Adali, elle a eu une enfance heureuse. D'autres personnes exilées n'ont pas eu cette chance-là de s'épanouir avec leur père. Mais les enfants de Michel et de Micheline Molinier, à un moment donné, ont posé la question de cette particule kabyle qui existait et qui n'apparaît pas à table, qui n'apparaît nulle part en famille. Et voilà, ils ont poussé les parents à créer une association pour essayer de comprendre cette particule-là. Et donc... Et j'étais un groupe d'Européens et ils cherchaient des Kabyles. Moi, je suis plasticien, j'ai un atelier pas très loin de là où ils habitent. Et on leur a dit un jour, voilà, il y a un artiste qui a des origines kabyles. Si vous voulez parler de Kabylie, allez peut-être le voir, il va vous parler de la Kabylie. Et quand ils sont venus me voir, j'ai dit, moi, je vais leur parler de tout sauf de la Kabylie. Je vais leur parler d'art et de culture. Je leur ai dit, mais si vous voulez connaître des Kabyles qui parlent d'art et de culture, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que des gens qui vendent des merguez ou qui foutent des machins, etc., etc. C'était de la provocation. Et quand je cite Saint-Augustin, on me dit, ah bon ? Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, ah bon ? Et quand on me dit, etc., etc., ah bon ?
Chaque fin de phrase est accompagnée d'un youyou, voilà, c'est un synonyme de fête, de joie. Et donc j'ai appelé mon album Imnayel parce que justement moi, aujourd'hui, elle me manque un peu cette tradition-là, c'est une tradition qui se perd. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Imnayel.
Moi, je ne me reconnais plus dans mon pays. Je ne le reconnais plus, je ne me reconnais plus dedans. Je me reconnais plus ici que là-bas. Alors que je ne suis pas français. Je ne suis pas français, non pas parce que je mangeais pour faire. Je suis ici comme un poisson dans l'eau. Je ne phagocyte pas, je participe, je vis. Je me sens entièrement humain là-dedans. Ça va au-delà du drapeau, ça va au-delà de la Marseillaise. Justement, les valeurs berbères, c'est ça. C'est sans frontières. Et du coup, normalement, on est des îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa qui va en Égypte.
Non, mais déjà, c'est important.
Et on va jusqu'au fin fond de l'Afrique, pas au fin fond de l'Afrique, mais sur les Andes subsahariennes. Je veux dire ce qui englobe le Niger, le Mali. Les peuples ne sont pas berbères, mais il y a quand même brassage. Les berbères sont de grands nommades.
C'est ça, oui. C'est le point commun avec les peuls, c'est le nomadisme.
Plein de peuples ont été nomades. Ça veut dire quoi, le nomade ? On a toujours l'idée de l'attente. On est tous des nomades parce qu'on bouge. C'est le fait de bouger quand tu cherches un métier, tu es nomade. Tu t'exiles quelque part. On est tous des exilés. Parce que le fait de trop s'alourdir avec ses valeurs, j'allais dire presque guerrières, de se dire voilà. Je suis là, je suis ancré là, c'est ma terre. Ma terre, elle peut aussi bien être plus respectée par un étranger que par moi-même. Quoi. Ma terre, elle appartient à tout le monde, quoi. Dans ce sens-là. Quoi. C'est pas un terme religieux, c'est un terme plutôt humain. Mais nous, on se doit aussi de sauver tous ces territoires-là de liberté. Ce ne sont pas des territoires enfermés, ce sont des territoires ouverts. Mais il ne faut pas qu'ils soient abîmés. Et si on les abîme au niveau linguistique, au niveau culturel, si on les empêche de dire, c'est une dictature. Hein. Moi, je n'ai pas à l'idée de nation, personnellement, ça peut choquer les gens, mais quand je leur dis ça, moi, c'est mon propos en tant que personne, pas en tant que président, je ne prêche pas ça. Mais moi, l'idée de nation, ça veut dire quoi ? Moi, la nation, elle va au-delà des frontières. ça veut dire quoi? Ben, la science, c'est celui qui aime travailler, celui qui aime... je prends des termes religieux, celui qui aime son voisin, son prochain. Ben, nous, on essaye de trouver tous ces gens-là qui habitent ici ou ailleurs, qui ont effectivement, on est sensible à cette idée-là de berbérité, dans le sens où c'est une société, une culture plutôt agressée, qui n'est pas reconnue, même si on dit qu'elle est, il y a une forme de reconnaissance aujourd'hui, mais elle n'a pas du tout les moyens de se développer comme les langues, toutes les langues du monde. Voilà. C'est qu'elle n'est pas enseignée avec, elle est reconnue, mais c'est du bricolage. On fait un bricolage pour essayer d'assassiner. On bricole pas avec la culture. Quand on propose quelque chose, c'est comme si on proposait à manger, on propose un bon plat, il faut qu'il y ait les bons ingrédients. Je vais pas vous proposer, je vais pas vous faire à manger tout et n'importe quoi juste pour remplir le ventre. Donc c'est un peu ça la culture. Nous, on est plus ancré en Méditerranée. On est ancré en Méditerranée, on n'est pas ancré en Arabie Saoudite. Je crois qu'il faut faire des milliers de kilomètres pour y aller. Hein. Voilà, il y a une erreur dans la géographie. Hein, c'est un problème là. On n'est pas encore sorti de cette idée-là orientaliste. Hein. On veut absolument te voir avec la danse du nombril à tout prix. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui jouent ça, de ça. Hein. C'est qu'on veut te voir en Aladdin, avec ta merguez. Bah ouais. Il faut s'interroger quelque part quand on est, confronté à des, ce qu'on appelle à des problèmes d'identité. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut virer, être hors système comme ça, c'est-à-dire sans qu'il y ait de transition. C'est-à-dire quand quelqu'un est né dans un cocon, avec un certain confort intellectuel ou un confort matériel, qui vit dans un pays quand même de liberté, et j'allais dire, il dérape. On peut tous déraper, mais je ne parle pas de dérapage, là, je parle carrément de déconnexion sociale, quoi, de déconnexion qui vire. Voilà, on va directement vers j'allais dire l'endoctrinement, etc. Alors que la culture, non, c'est pas ça. La culture, c'est ça permet à un individu de s'épanouir et non pas d'être de se nourrir de haine, de se nourrir plutôt de choses qui vont faire que voilà, il va jalouser l'homme moderne ou la femme moderne. Voilà, c'est qu'à partir du moment où on a une base, même ancienne, ancestrale, parce que on oublie souvent et on méprise souvent les cultures orales. Parce qu'il y a beaucoup de cultures anciennes, comme la culture berbère, qui à un moment donné a laissé l'écriture. Et la transmission s'est faite oralement. Et on se dit, voilà, l'oralité, c'est pas l'école. Alors que l'oralité, c'est l'instruction. Ce n'est pas l'école, mais c'est l'instruction. Beaucoup de gens oublient l'oralité, c'est-à-dire que toute cette richesse-là de transmission, comme disait tout à l'heure Nabila Dali, bah, dans cette oralité, il y a de la philosophie, il y a un rapport aux gens, il y a un rapport à la nature. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On ne l'a pas dans la société moderne. Aujourd'hui, il faut apprendre à être poli, il faut apprendre à vivre avec les autres. Avant, tu grandis avec cette idée-là. Le contexte n'est plus pareil. Moi, je l'admets. C'est-à-dire qu'on est plus choqué parce que les gens disent « Ouh là, je reconnais plus !» C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bien sûr qu'on est soumis à des mutations. Mais il faut que ce soit des mutations voulues, construites, et non subies.
Les bruits du monde.
On parle sans cesse de terrorisme, d'islam radical, et en y réfléchissant, enfin, tous ceux qui sont là, en tous les cas les berbères le savent, mais on sait que c'est en totale contradiction avec ce que les populations, les jeunes, les moins jeunes, ont reçu. Alors c'est comme ça que j'étais amenée à réfléchir sur un homme, enfin, sur lequel, encore une fois, j'ai travaillé, qui s'appelle Cheikh Mohamed. Ce Cheikh Mohamed, en fait, c'est un saint hyper connu dans toute la Kabylie et qui était aussi un sage, un poète, un créateur. Bon, mais simplement, encore une fois, les gens n'ont gardé de lui comme ça, je veux dire, de façon générale. Non, garder que lui, que l'aspect, en fait, religieux. Mais quand on creuse un peu, ben, on va voir que ce questionnement par rapport au dogme, ce questionnement par rapport à l'orthodoxie, il n'y a pas que les jeunes d'aujourd'hui, en tous les cas ceux qui contestent, ceux qui résistent à l'islamisme radical, ben, ça n'a pas existé d'aujourd'hui. Ça existait avant. Et si on va encore plus loin, mais je vais rapidement, on va voir que toute l'histoire d'Afrique du Nord a été jalonnée par une résistance. Par exemple, je vous parle très très rapidement, mais après je reviens à mon sujet. Si on prend par exemple aujourd'hui une population qu'on appelle les Mozabites, qui sont dans le sud algérien, eh bien ces Mozabites que l'on critique, que l'on met de côté, qui sont complètement stigmatisés, eh bien faisaient partie d'un empire tout à fait exceptionnel, et cet empire était en droite ligne, en contradiction avec le dogme. Et ils vont régner en Afrique du Nord, et quand ils vont régner en Afrique du Nord, toute leur doctrine porte sur, on va dire, c'est l'aspect le plus démocratique en islam. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord, rejeter la filiation par le prophète. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant ? Eh bien, que le meilleur gouverne, fut-il esclave. Voyez ? Donc, ils vont mettre la compétence au-dessus de la généalogie. Donc, cette histoire de sacré, de contestation du sacré, on voit bien qu'il était contesté dès le départ. Ça, ce sont les Ibadites. Deuxième mouvement très, très, très important qui va combattre les Ibadites, ce sont les Fatimides. Les Fatimides sont nés en Kabylie. C'est un empire, c'est un khalifa né en Kabylie et qui va gouverner l'Afrique du Nord, la Tunisie actuelle. C'est eux qui vont fonder Madia. C'est eux qui vont fonder le Caire. Al-Azhar, le Caire, a été un nom donné par les Fatimides. Al-Azhar, la même chose. C'est qu'eux aussi vont contester la descendance par le prophète. Et ils vont revendiquer quoi ? La descendance par sa fille. Et c'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'appeler Fatimides ? Parce qu'ils vont s'inspirer des méthodes nord-africaines où les femmes avaient du pouvoir. Où on pouvait être... C'était une partie de l'Afrique du Nord était matrilinéaire. C'est-à-dire que le pouvoir revient soit à la mère, soit au fils aîné de la sœur aînée, comme aujourd'hui chez les Touaregs. Donc les mères avaient un pouvoir important et qu'elles transmettaient leur noblesse, elles transmettaient leur pouvoir. Et c'est sur ça qu'on va grignoter, c'est sur ça que l'islam orthodoxe va grignoter petit à petit pour arriver au 19e siècle, et surtout, là où il va y avoir un revirement, c'est dans les années 30 avec les ulémas, qui eux se prétendent comme réformistes, mais en réalité c'est des réformistes, mais des orthodoxes quand même.
un sujet qui m'a particulièrement touchée au niveau de la place de la femme, de la vision qui était plus ancienne. Quelle est la place aujourd'hui de la femme en Kabylie ou dans le monde berbère ?
Écoutez, c'est très difficile à résumer. À la fois, on peut dire que c'est pas tout à fait la vision du saint dont on parlait. D'un côté, il y a une espèce de régression. Parce que justement, si on se confronte aux dogmes, mais il y a aussi des luttes, des avancées grâce à l'école, grâce à ceci, grâce à ce que nous faisons, les unes et les autres, ça fait quand même avancer. Et les hommes en général, je parle des hommes kabyles en général, qui savent justement que si les femmes sont dans cette situation-là, c'est parce qu'en fait, ça ne vient pas d'eux, ça vient aussi de cette chape de plomb qu'on veut leur imposer. Il y en a aussi qui aident à ça. Il y a des frères, il y a des maris, il y a des pères. Aujourd'hui, aucun parent kabyle, homme ou femme, n'aimerait pas voir sa fille à l'école. Mais après, c'est après que le problème se pose. Mais tout le monde est pour que les filles aillent à l'école. Alors que dans la tradition, elles n'allaient pas à l'école, mais elles avaient d'autres prérogatives. D'accord. Voilà.
Ça avance d'un côté. Et on a la chance de voir aussi dans ce festival des artistes féminines qui sont berbères.
Oui, je crois. C'est aussi une très belle occasion, bien sûr. Bien entendu. C'est pour ça que j'étais là. Maintenant, il faut que les femmes soient plus présentes. Il ne faut pas qu'elles restent complètement invisibles. Alors. Qu'il y a des poétesses, qu'il y a des chanteuses, qu'il y a des dessinatrices, qu'il y a des peintres, ça manque pas, mais il faut les pousser. De ce qu'on appelle l'islam radical ou l'islam plutôt orthodoxe, je préfère ce terme-là, il est plus exact et plus scientifique, on n'a pas entendu. Et c'est dans ce sens que je vais vous parler de Cheikh Mohamed. De ce Cheikh Mohamed, donc, qui est né en Kabylie vers 1800 et quelques, 1830, 1835, et l'état civil n'était pas établi comme aujourd'hui. Et quand on prend ce Cheikh Mohamed, en fait, mais là, faites-moi confiance, je ne peux pas tout vous raconter. Quand on le prend, il n'est pas le seul. Il y avait beaucoup d'hommes comme lui, et avant lui, qui avaient imprimé leur marque culturelle locale sur l'islam. Vous voyez ? Donc, tout en ayant après accepté l'islam sous sa figure actuelle, mais il n'empêche qu'ils ont imprimé la marque de leur culture, la marque de leur croyance, et il y a eu un syncrétisme populaire. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils vont opérer, ce que je viens de vous dire, une alchimie entre le spirituel, le politique et le social. Donc à la fois, ils sont dans le spirituel, mais ils sont aussi des politiques parce qu'ils avaient des armes contre lesquelles ils vont lutter contre les saints, contre les politiques de leur époque. Et surtout, c'était des gens qui avaient un rôle social très important. Alors, donc, évidemment, la spiritualité, c'est quoi ? Tout en se revendiquant de l'islam, ce qui les intéressait, en fait, c'est une expression de soi qui va jusqu'à une forme de contestation du politique qui est porteur d'une vision d'un monde social au leur. Donc tout ce qui n'est pas eux, ils le contestaient. Je vous donne juste un nom très très simple. On a un type qui s'appelle Lwartilani, 18e siècle, kabyle, qui va faire aussi son périple jusqu'en Inde, jusqu'en Arabie, en passant par l'Égypte. Donc ces gens qui vont être fascinés par l'Orient au départ, mais fascinés en se disant, donc la culture. Et donc il va faire tout son périple, et quand il revient, elle dit non, moi je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Ma culture est ici, mon identité est ici. En fait, il n'y a rien qui me plaise, que lorsque je trempe ma galette chaude dans de l'huile.
Les bruits du monde par le principe actif.
Nous avons un grand, donc un autre au Maroc, qui s'appelle Moulay Bouyaza. Bouyaza, donc, qui est dans l'Atlas marocain, et il est encore visité jusqu'à aujourd'hui, et c'est un des grands saints de son époque. Alors pourquoi je vous raconte ça? D'abord, ce Moulay Bouyaza va être l'initiateur d'un autre grand saint, dont on parle encore aujourd'hui. Il va être l'initiateur de Boumediene, qui a donc son tombeau à Tlemcen, ou près du Tlemcen. Et qui va donc, ce Boumediene, il va occuper la position de Qutb, c'est-à-dire le pôle, dans la hiérarchie mystique. Et ce Moulay Bouyaza va rencontrer le grand Ibn Arabi. Je ne sais pas qui a enseigné à l'autre, mais il va rencontrer Ibn Arabi. Et Ibn Arabi, donc, c'est vraiment un grand mystique, connu et reconnu dans tout le monde musulman. Et ce Moulay Bouyaza, pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Ibn Arabi avait reconnu que c'était un très grand, grand, grand saint et l'un des plus grands en Afrique du Nord. Et la réputation de ce Moulay Bouyaza arrive jusqu'en Andalousie, pour vous dire. Mais simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a formé des gens, il va rencontrer encore une fois Sidi Boumediene, qu'il va initier à la mystique, mais Sidi Boumediene, tout en s'initiant à la mystique sous sa forme berbère, il va rester un théologien, etc., etc. Et ce Boumediene est passé, au Moyen-Âge, bien sûr, par Béjaïa. Bien. Mais simplement, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on va parler d'Ibn Arabi jusqu'à aujourd'hui? On va parler de Sidi Boumediene qui reste dans les mémoires. Et comment se fait-il que ce Moulay Bouyaza, qui a joué un rôle immense, sera complètement effacé? Je vous le donne en mille. Ça m'a fait réfléchir, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi? Parce que tout simplement, il était berbère. Parce qu'il était berbère, et tout ce qu'il disait, toute sa sagesse était dite dans sa langue maternelle, et est restée finalement confinée, et n'a jamais pu être internationalement connu, comme l'ont été les autres, dont l'un qui était son élève. Donc vous voyez. Et en fait, c'est ça qui m'avait amené à repenser finalement à Cheikh Mohamed. C'était un des grands, reconnu en Kabylie et même par-delà, mais parce que ce qu'il a dit, ses faits et ses gestes n'étaient connus que par les siens, et finalement, ça a circulé en vase clos. Ça n'a pas franchi les frontières parce que c'était dans une langue qui n'était pas intelligible par les autres. Et en plus, c'était par une langue qui était combattue par l'arabe, qui était, elle, considérée comme langue sacrée, comme langue de l'islam. Et donc, ces théologiens citadins, parce que citadins, qui est en général orthodoxe, c'est-à-dire qu'ils vont être plus dans la règle que dans le fait, justement, mènent une guerre sans fin, que ce soit contre ce Moulay Bouyazin, si vous allez au Maroc, je vous conseille d'aller visiter sa tombe, que ce soit finalement avec Cheikh Mohamed. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, très très rapidement, alors si on lit un peu la biographie de ce Cheikh Mohamed, vous allez voir qu'il est à la fois, évidemment, dans la sainteté, appelez-la comme vous voulez, mais en même temps, tout à fait en dehors, tout à fait hétérodoxe et tout à fait subversif. Alors, très très rapidement, donc, il va s'inscrire dans ce qu'on appelle de façon grossière le maraboutisme, et encore le maraboutisme en Kabyle, il est ancré, il est enraciné, bref, et c'est toujours un schéma mythique qui est lié à des événements réels, et évidemment, l'histoire, la légende fait commencer le monde avec eux, comme si tout est né à partir d'eux, bref. Et donc, évidemment, on a deux types de marabouts en Kabylie. Des marabouts morts, c'est-à-dire tout en étant mort, ils continuent, enfin c'est comme Saint-Thérèse de Lisieux ou autre, c'est-à-dire tout en étant mort, ils continuent à donner de la baraka, hein, une bénédiction si vous voulez. Mais on a aussi des marabouts vivants, c'est-à-dire que l'on va côtoyer, que l'on connaît, et qui peuvent se reproduire par la descendance. Donc la baraka se transmet aussi par le corps. On dit hein, qu'il y avait des féodaux locaux qu'on appelle Afrasi. Ces Afrasi, enfin, si vous allez avec votre cheval et que vous passiez par leur champ, si par malheur le cheval a brouté un peu d'herbe, ben on fait descendre le cavalier et on le fait marcher sur des épines. Parce que même un animal ne doit pas toucher à leur bien. Alors donc, ces fameux Afrasi, bien sûr, c'est des féodaux, comme je vous dis, et des tyrannos. Ils prenaient tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils voulaient. Et surtout, évidemment, parmi les belles choses, les femmes. Alors, à chaque fois qu'il y avait des femmes dans une tribu qui leur plaisait, ils les épousaient. Mais pas tout, ça c'est, on va dire, ça c'est classique. Donc. Et quand une femme leur plaisait, non seulement ils l'épousaient, mais quand elle leur plaisait plus, ils la divorçaient pas. Elle restait là, ce qu'on appelle en Kabyle suspendu, comme le pendu du tarot, vous voyez. Il la garde, elle n'est pas divorcée et n'est pas mariée. Voilà, donc voilà. Il la garde ainsi pendant 7 ans. Et le père de cette jeune femme commençait à s'inquiéter parce qu'il était vieux, il ne voulait pas laisser sa fille dans cette situation-là. Il va aller voir, rien à faire. Il va voir le Cheikh Mohamed qui essaie de discuter avec eux et ils disent « Oh Cheikh, ça ce sont nos coutumes. » C'est-à-dire leurs coutumes sont sacrées et on n'y revient pas. Bon. Ils laissent le temps courir. Un beau jour, donc, eux-mêmes, vous voyez, eux-mêmes avaient un souci, ils vont le voir. D'accord, il les reçoit bien, comme des féodaux, normal. Et le lendemain, ils se lèvent. Ils trouvent que leurs chevaux sont mal harnachés. La sangle est vers la croupe est vers le devant. Bon. Ils vont le voir. Ils disent, Cheikh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui se passe là chez toi. C'est pas comme ça qu'on a laissé nos chevaux. Mais on ne peut pas partir comme ça. Alors, que dit le Cheikh? Attendez, je vais vous dire. Il leur dit rien d'autre, hein, mais il les combat par des mots. Je croyais que c'était votre manière de sceller les chevaux. Vous l'en signifiez par là. Quand les Aïtrassis revendiquent le droit d'avoir une coutume particulière à eux, ils la faisaient à leur avantage. Mais, dit-il, il y a des conditions qui sont communes à tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a qu'une façon de sceller les chevaux avec la sangle avant vers le poitrail et la sangle arrière vers la croupe. De la même façon, il y a une voie juste, valable pour tous. Donc pour lui, voilà. C'est ce qui est universel, général et généralisable qui compte.
داري بونتي كرسي لا تكرولا داري ناور انت مسغا في مورانا فوزة تزي والسجاية طنجة تكرولا وهندس انت كرولا فورا داري بونتي كرسي لا تكرولا داري ناور انت مسغا في مورانا فوزة تزي والسجاية طنجة فيت دي مزور نكليب يا كنت كرولا فيت دي مزور نكرن قدم الطابية سوارا داري نفوسا يفرن الوزن نلوت جادو تدي موراني خافورا وضمتي لبلك لينسن سلسلتي مسن وشيني ذاب منه شيني ما ننسن ديت دي مزوار فندال لكار تريف لا ريزيستانس دي مزيغ انتو جور اكتيف ديت دي مزوار قطر جشل الاسباني اقرون الريب عبد الكريم الخطابي لا بالي دو صوم انتي مو انتي مساكري دي مارتي دي فيكتي دي ميل انتو تزارمي قاعد انا دي سواسي غام منه خابور قاعد انا مشي دريم زي مسن الفجر سكسي واتي ليري يدا فوضة الكناري زي كلمة دي رامي شوش كادر Get more on that, get you net with this front hey, you must see the nest to see me should be check. Now you show is love, it papa the need of the day, to this amazi, yes, I made it a book, it a growla, where had this and the growla, the ura, Larry Bonch, the Kusay, let the growla, Larry now in the Nasra, the Moranda Pusat is you with Sujaya Tancha, the growla, where had this and the growla, the ura, Larry Bonch, the Kusay, let the growla.
Et moi je suis étonné de voir, voilà, qu'en Tunisie, d'abord on continue à parler le berbère par des jeunes, ce pays-là qu'on considère comme arabe, alors que, comme disaient les jeunes tunisiens, il y a une conscience aujourd'hui, une conscience berbère qui s'éveille chez les arabophones. Parce qu'il s'agit d'arabophones et de berbérophones. Les berbérophones sont minoritaires, en particulier chez les jeunes. Mais voir comme ça des jeunes qui ne sont pas citadins, habillé, j'allais dire, presque la bande, comme ça peut choquer les gens, mais comme un New Yorkais, chanter du, je sais pas moi, sur un tempo incroyable, avec un verbe dérangeant, parce que bon, ça parle de révolution quand même, pas armée, de révolution culturelle, d'identité culturelle, de problèmes de jeunes, d'émancipation. Voilà, et ça bouscule, j'allais dire, l'État, le pouvoir central. Ça dérange. Donc voilà, effectivement, pour ça, lire des gens comme ça, c'est pas difficile. Le rap, c'est mauvais genre. Bah ouais, t'es un bad boy, quoi. Je suis désolé, tu peux être quelqu'un de valeur, voilà, pétri de valeur, en étant, j'en sais rien, moi, en faisant du hardcore. Ou... À mon avis, s'ils n'ont pas choisi un médium traditionnel, quoi, folklorique, parce qu'il n'y a vraiment pas de folklore dedans, aucune sonorité, quoi, aucune sonorité, je pense, quoi. Je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, moi, je les ai écoutés attentivement. Je les ai écoutés attentivement avec un produit fini, c'est peut-être un peu facile, mais quand on les voit comme ça en direct, il y a une restitution quand même qui est physique et authentique, quoi. Je pense que peut-être le rap est le rap. Moi, la musique en soi est une forme, j'allais dire, d'engagement à partir du moment où tu as un chanteur qui est engagé. Effectivement, le rap. Les médias ou j'allais dire ou les commerçants de la musique, les industriels de la musique ont monté en puissance ce mouvement-là parce qu'il rapporte de l'argent effectivement, mais pas que de l'argent, il y a quand même derrière de grands artistes. Il y a toute forme de rap. Moi je suis pas un inconditionnel, moi j'écoute de la musique point barre. Moi j'écoute du baroque, j'écoute du kabyle ancien, j'écoute de la musique du Sierra Leone parce que j'aime la musique. Je ne suis pas sectaire. Une musique, c'est une musique. Elle est belle ou elle te plaît ou elle te plaît pas. Voilà. Mais peut-être que, je ne sais pas, il faut leur poser la question, mais le rap, longtemps, a été une musique qui accompagnait effectivement des paroles soit violentes, soit vindicatives ou revendicatives, j'en sais rien. Mais dans leur cas, c'est vraiment un engagement politique, carrément, hein, qui à aucun moment ils appellent à la violence, mais ils dénoncent l'État, comme on dénonçait un État totalitaire quand même. Il faut le faire là-bas. faut le faire, hein, franchement, hein, parce que là-bas, on vous fait disparaître comme rien. Hein. Vous êtes dérangeant. Là, pour l'instant, ils ne dérangent pas, parce que bon, ça prend pas l'ampleur. Ou alors, ça arrange encore l'État pour contrecarrer les islamistes. Dire attention, nous, on n'est pas des Arabes, on n'est pas des musulmans. Quoi, des musulmans comme ceux-là veulent vraiment qu'on le devienne, qu'on le soit, on n'en sait rien. Mais voilà, on est quand même des Nord-Africains, hein, on n'est pas en Orient. Ah, là, ça vous arrange qu'on soit en Afrique du Nord et pas en Orient. Pendant 50 ans, vous avez obligé les gens à être arabes, à s'arabiser, à s'islamiser. Et là, maintenant que votre pouvoir est en danger, ah, on est des Nord-Africains. Effectivement, on a une civilisation, Carthage, on a Massinissa, Jugurtha. Ah ouais.
Les bruits du monde par principe.
Depuis 62, on parle plus de cet islam de tolérance, mais plutôt d'un islam politique. Donc, qu'on subit depuis 62, que la Kabylie notamment subit, sur les 15 000 mosquées en Algérie, on trouve presque la moitié juste à Tizi Ouzou. Donc, est-ce que l'islam politique, justement, n'accélère pas la perte de la culture kabyle?
Bah oui, c'est le but du propos, mais bien entendu. Parce que là, c'est un islam villageois, hein? D'accord, il est cher Mohamed des musulmans comme tout un chacun, je veux dire, mais cet islam a été nourri par une culture, par une pensée, par des modes de vie. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que bon, j'ai dit tellement de choses, et pour moi, à un moment donné, et là j'avoue que j'ai pris conscience qu'il y a très peu de temps, on ne peut pas devenir saint en Kabylie si on ne parle pas la langue, si on ne connaît pas les coutumes, si c'est pas possible, vous voyez ? Ces gens dont on dit qu'ils viennent d'ailleurs et ils ne connaissent que le dôme, c'est faux. Donc on ne peut pas être un véritable saint, jouer un rôle. Quand je dis pour moi la sainteté, c'est comme Cheikh Mohammed. Hein. C'est quelqu'un respecté, c'est quelqu'un qu'on adore au sens de ibada musulmane, c'est quelqu'un qui rend service, quelqu'un qui protège. Vous voyez ? Effectivement, ce genre de saint, aujourd'hui, s'il était encore en vie, oui, je crois que les pouvoirs politiques le combattraient parce qu'ils leur feraient de l'ombre. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui.
Donc voilà. Et cet islam politique, je suis d'accord avec vous, ben, il a commencé... je pense qu'il a commencé depuis les années 30. Avec les ulama déjà. Oui. Depuis, idéologiquement, il a commencé depuis les années 30. Et depuis 62, c'est vrai qu'on va préférer un islam venu du centre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez en Algérie. Moi, j'ai été dans les 70-80. Eh bien, les imams... D'ailleurs, on les appelait les imams CCP, des imams payés par l'État, qui prenaient le discours du vendredi, qui lisaient un discours qui venait du FLN, rédigé pour eux. Et les imams CCP, eux, par exemple, moi je ne vois pas d'inconvénient, hein, eh bien, ils disaient que la réforme agraire était musulmane. Vous comprenez ? Donc ils justifiaient le programme politique en s'inspirant, soi-disant, de l'islam. Les villes n'ont pas de racines. Les villes ont été dépersonnalisées. Et donc, l'école n'offre pas les instruments de pensée, déjà. Même l'école en enseigne, je ne sais pas combien d'heures d'islam. Et la télé est nulle. La lecture n'existe plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on essaye de prendre les moyens qu'on vous offre. Et c'est malheureux. D'ailleurs, la plupart... ce qu'on appelle communément les terroristes ou autres, viennent en général des villes ou de l'immigration. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce terreau-là, il n'y a pas cette compréhension-là, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc, voilà, ils prennent du prêt-à-porter.
Je pense que si l'État algérien
ou l'État marocain, je ne sais pas, au Maroc si c'est pareil, ne fait pas pour, j'allais dire, ne met pas les moyens qu'il faut, en tout cas des moyens de subvention ou d'aide à
la recherche.
À la recherche, bien sûr. Donc, aussi, un étudiant, il se pose aussi la question de...
Comment il va vivre ?
Et c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a la possibilité de faire, est-ce qu'on est capable de produire convenablement, de façon, j'allais dire, sereine et, voilà. et authentique voilà. C'est ça le problème. Effectivement, moi, quand j'ai connu Tessa Titiassine, tout à l'heure, on en parlait, elle était au CRAP, au Centre de Recherche d'Anthropologie, et moi, j'étais étudiant à l'École des Beaux-Arts, qui n'était pas très, très loin, et j'allais à la bibliothèque, et il y avait des séminaires, pour moi, qui étaient clandestins, qui n'étaient pas affichés, dans les sous-sols. Et moi, je n'étais pas autorisé, donc je me retrouvais entouré de Tessa Titiassine, Salem Chaker et Antonio Cubio, qui était un Canarien, qui était berbère des îles Canaries. Donc tout ce monde-là, effectivement, œuvrait clandestinement et c'était interdit.
C'est ça.
Voilà.
À Alger.
C'était voilà. Et moi, je découvrais un monde interdit. On m'interdisait de d'apprendre à se connaître, quoi, de connaître cette culture-là. Et là, c'est là où on pose le problème, justement, de l'État, la responsabilité de l'État, qui justement, ne met pas en œuvre, au lieu, justement, on fait connaître l'islamisme, on encourage l'islamisme, on encourage à construire des mosquées, mais on n'encourage pas. C'est pour ça qu'on encourage aussi, comme disait tout à l'heure l'étudiant, je pense que Abderrazak, il voulait dire aussi, on construit des mosquées en Kabylie pour nuire à la culture. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la Kabylie a toujours été, j'allais dire, le bouc émissaire de l'État. C'est-à-dire que quand on veut chercher un problème, on va le chercher en Kabylie. L'antislamisme, il venait de la Kabylie. Le vœu démocratique venait de là-bas aussi. Le travail de SAP, il a été fait dans toute l'Algérie. La résistance, effectivement, elle est kabyle. Aujourd'hui, effectivement, avec la, il y a eu quand même, des points de gagner. On a gagné quand même des batailles. Hein. Ces gens-là ne sont pas morts pour rien. Et il y a effectivement une reconnaissance de la langue berbère, de la culture berbère. Mais il reste à édifier, des écoles, des instituts, à former des chercheurs, et aussi à pouvoir aujourd'hui produire dans sa langue, convenablement, comme des citoyens universels, comme le font les Français, les Anglais, etc. Avoir de vrais instituts, de vrais outils de production. C'est pour ça que nous, on encourage à la création contemporaine, et c'est bien aussi de se référer à l'ancien, parce que l'ancien, on le connaît, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que nous, on a comme ça des bribes, comme ça, de Sheikh Mohand, etc. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était un poète. J'ai jamais pensé que c'était un religieux. Et moi, j'ai jamais vécu, et je suis athée, voilà, je le dis, hein, j'ai jamais vécu dans un encouragement religieux. J'ai toujours été, au contraire, encouragé dans une volonté culturelle, identitaire culturellement, mais pas religieusement, à aucun moment. Et pourtant, on avait quand même des petites fêtes religieuses. Mais pour nous, c'était juste des moments de fête, mais jamais une fête qui avait plutôt une chape religieuse.
Mais alors moi, je suis venue parce que j'aime bien m'ouvrir à d'autres cultures et que je connais pas la musique berbère et kabyle. Donc ça m'intéressait de découvrir et je trouve ça très festif, très sympa parce que le public participe beaucoup. Et je trouve ça super, le ululement des femmes et tout ça. On voit qu'il y a de l'ambiance et puis les belles couleurs, les costumes des musiciens et tout ça. Et ce sont de très bons musiciens. Donc j'apprécie beaucoup cette soirée.
Tu avais dit sortir de la morosité de l'hiver. Sortir de la morosité de l'hiver.
Oui, voilà, c'est ça.
Faire la fête.
Ouais, faire la fête, sortir un peu de la morosité de l'hiver. Parce qu'en fin de compte, quand j'ai su que c'était un concert avec Berbère, comment on appelle ça, Berbère ancien,
Kabyle,
voilà, c'est un peu mes sources, quoi, mais c'est un peu... Voilà.
Mais d'un seul coup, personnellement, je réalise qu'il y a, en voyant les familles avec les enfants, les grands-parents, les parents, je réalise qu'en fait, c'est beaucoup de gens qui ont quitté leur région d'origine, qui est en Algérie, au moins, et qui se retrouvent ici dans une ambiance où ils doivent vibrer à leur source, puisque quand les femmes chantent, on a l'impression d'y être dans leur village. Hein, les belles-mères qui chantent avec leurs belles-filles, là, c'était poignant. Et puis après, le beau chanteur là, qui chante cette chanson triste d'un poète du 18e, eh bien, on a l'impression d'y être, quoi.
Moi, c'est justement mes racines, mes anciennes racines. Et justement, c'est une culture qui m'attire depuis très, très longtemps, quoi. Et justement, c'est des racines intéressantes pour moi.
J'ai apprécié l'introduction qu'a faite le présentateur en début de Chant des Femmes, en donnant des éléments d'histoire des Berbères, à une époque, donc, ils ont été conquérants, ils ont été envahis. Et donc, leur culture, ben, on sent que déjà, c'était une histoire mouvementée. Puis d'un seul coup, je réalise que je ne la connais pas, cette histoire, moi. Donc ça, ça interpelle.
Les déracinés, c'est tous des déracinés, plus ou moins, les Berbères. Mais en même temps, c'est vrai que ça a été beaucoup, au niveau, ça a bougé pas mal, quoi. Mais moi, ça m'intéresse, c'est surtout les couleurs. À cette époque-là, on en a vraiment envie. Les couleurs orange comme ça, les couleurs vraiment de la Kabylie, les montagnes, on ressent vraiment le tam-tam et tout ça.
C'est un rouge orange,
j'en ai acheté une en
Kabylie,
moi.
Beau,
j'ai
réussi,
hein. Mais son chien, c'est son
Ça donne envie. Enfin, moi, j'aime beaucoup faire de la couture et le fait de voir des vêtements traditionnels comme ça, ça donne plein d'idées et c'est vraiment très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup leurs vêtements sur scène. Ça fait voyager. On est là au centre Malraux, sur les hauts de Rouen, et on voyage en fait. Et ça, et on sent le soleil, on sent la chaleur du pays et ça fait du bien en plein hiver.
Bah, on est content que le centre André Malraux ouvre ses portes pour cette rencontre culturelle. Et moi, j'ai dit à mes enfants, bon, écoutez, je vais participer à un concert de chant lyrique berbère dans un centre culturel, et ça me fait vraiment plaisir de participer à ça, voilà, même si je chante pas, mais j'écoute et c'est super.
Alors moi, je suis venu à la soirée parce que je savais pas qu'il y avait un festival au départ, donc je suis venu voir un concert et qui finalement s'est trouvé changé d'affiche, mais pour moi c'était une découverte en fait, enfin une musique berbère que je connais un petit peu mais pas plus que ça, donc c'est assez agréable, c'est une musique qui est assez festive, assez plaisante. Bah, je trouve en fait que c'est très convivial, on se retrouve dans une ambiance avec un spectacle en fait qui diffère un peu de ce qu'on voit d'habitude parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ça bouge beaucoup, donc c'est très vivant. Et puis il y a beaucoup de partage, je trouve, entre les gens et tout ça. En fait, c'est très agréable comme ça. Alors, j'ai pas de regard particulier, en fait. Enfin, je la connais pas très bien. J'ai voyagé un peu en Afrique du Nord, mais j'ai pas de connaissance particulière de cette culture. À part des gens que j'ai pu rencontrer, des choses comme ça. Mais en fait, je suis là plutôt par esprit curieux qu'autre chose. Bah, ça permet, j'imagine, aux gens de se rencontrer, certainement, avant tout. Moi, personnellement, c'est une salle que je fréquente pas si souvent que ça, parce que je vais plutôt dans des salles en centre-ville, au 106, à droite, à gauche, mais pas nécessairement ici, en fait. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron. Je suis venu pour l'exposition et le concert. Mais sinon, il est vrai que je viens pas tous les mois ou toutes les trois semaines ici, en fait. Enfin bon, donc c'est le hasard qui fait. En fait, la soirée commence tôt, donc on n'a pas eu le temps de se restaurer, tout ça. Donc c'est agréable de pouvoir se restaurer, de partager ça aussi à plusieurs.
Ben moi, j'avais envie de voir des choses que j'aime bien, parce que je connais un petit peu la musique berbère, et puis j'avais envie de retrouver ça. Et puis, ça me plaisait aussi que ça ait lieu dans le quartier, où on s'est retrouvés là tous ensemble. Aidez-moi, les filles.
Oui, c'est une ambiance. Bien, oui, c'est un bon moment de partage.
Un grand moment de partage. Oui, j'ai bien aimé quand le chanteur a dit... nous, on chante la culture et pas,
oui,
la religion.
Et pas la religion.
Ça, c'était
alors,
bien.
Ouais, voilà, très bien
aimé. Et effectivement, c'est ce qui s'est senti, hein, parce qu'on est tous là, blanc, jaune, rouge, noir, tous ensemble. Sympa. Mais parce qu'on est quand même un quartier multiculturel.
Voilà.
Hein, quand même. Et donc, c'est bien qu'il y ait des choses comme ça qui rassemblent toutes sortes de gens, toutes sortes de cultures. J'ai visité des villages berbères autrefois, mais non, je ne connais pas spécialement.
Donc on a partagé avec l'oreille, maintenant nous partageons avec nos papilles.
Voilà, une autre culture.
C'est toujours moi, dans la même, bien, toujours oui. la
et
même,
moi, la même lignée. Tôt, je suis arrivée tôt et je me suis assise là sur le banc et il y a une dame à côté de moi, berbère. Et on a discuté, c'était vraiment très sympa. Et puis après, elle s'est installée dans la salle et puis elle m'a fait un petit signe comme ça quand moi je me suis installée. Bon voilà, des petites choses toutes simples mais qui font du bien.
En plus, la tagine est excellente.
Oui, oui
excellente.
Excellent.
Et gâteau. Excellent. Et gâteau. Alors, une réussite. Je veux dire, cette soirée est une réussite.
Voilà.
Voilà.
À refaire.
Nous sommes à refaire.
À refaire.
Voilà, nous sommes ravis.
C'est une très bonne initiative d'aller vers les gens, de leur donner l'occasion de voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude et qu'il y ait aussi une rencontre entre les différentes populations, on va dire, de la ville. Ça, je trouve ça très bien. C'est pour ça que je suis venue, d'ailleurs.
Et aussi dans une idée d'universalité, dans ce que vous parliez de ça dans votre conférence, le fait de partager, d'être ancré dans la vie des gens, en fait. Est-ce que pour vous, le festival peut refléter un peu ce mode de vie, cet état d'esprit ?
Mais tout à fait. Un festival, c'est aussi la rencontre, c'est le partage, c'est aussi un moment d'émotion qui peut vous pousser à aller au-delà. Voilà. Donc, c'est jamais une fin. C'est... Voilà, moi je connais Saïd, ça fait la troisième ou la quatrième fois que je viens. C'est à chaque fois, on discute, on se voit, et puis la prochaine fois on va faire autre chose. Et ça me semble tout à fait important.
Et sur la culture berbère en elle-même, du coup, est-ce que vous avez vu beaucoup d'événements qui peuvent éventuellement faire mieux connaître cette culture qui est finalement assez peu connue du grand public ?
Non, elle est connue, mais on la connaît, il y a la chanson qui passe devant, il y a, si vous voulez, les grands événements publics. Mais voilà, mais justement, le festival permet de donner cette chance de travailler sur des choses précises, hein, comme ce soir, par exemple. Jamais il n'aurait eu l'occasion de... Moi, je le fais à l'université, mais en dehors de l'université, c'est très compliqué. C'est très compliqué, parce que, en fait, ce que j'ai dit là n'est pas très orthodoxe non plus.
Évidemment, il y a le village, mais pour lui, le village, c'est l'humanité. L'humanité, c'était son village, vous voyez, c'était comme un laboratoire. Et donc, et comme je vous disais, on se pose des questions sur tout, mais surtout, là je vous donne le résumé, et juste ce qui peut vous intéresser. Alors, donc, on va lui dire, mais cher, la fin des temps, c'est quoi ? Alors, il répond, à la fin des temps, survivront les hommes des forêts. Suivez mon regard, hein. Ceux des pays irrigués, donc le Sahel, adieu, et les sans-industrie. C'est un plan contre la pollution, contre le capitalisme libéral. Donc vous voyez, les hommes des forêts, donc ils sont autonomes, ils se suffisent à eux-mêmes en mangeant ce que la forêt leur donne. Ceux des pays irrigués, évidemment, ceux qui ont de l'eau, c'est plus facile pour eux de cultiver. Et les sans-industrie, évidemment,
voilà, là aussi, c'est signe d'autonomie. Là aussi, il dit, à la fin des temps, survivra le paysan avec ses enfants.
Les bruits du